ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, Laurent va vous parler d'un musicien de jazz assez extraordinaire, pas toujours suffisamment connu, c'est Eric Dolphy. Eric Dolphy qui est surnommé le passeur. Alors, Eric Dolphy, c'est un flûtiste, c'est un saxophoniste, c'est surtout le plus merveilleux des clarinettistes basses que je connaisse. Ça a été quand même un des très très grands dans l'histoire du jazz. Disparu comme les très grands jeunes, il est mort à 36 ans d'un coma. Et on l'a surnommé le passeur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Laurent ?
Oui, bonjour Alex, bonjour à tous. Eh bien, Dolphy, c'était effectivement un immense musicien, encore un grand, effectivement, comme tu le disais, qui est disparu jeune, comme Big Spider Beck, comme Scott LaFaro et autres, Clifford Brown. Il a laissé une trace par ses concerts ou ses enregistrements en leader, mais si on parle de passeur, c'est surtout par la façon qu'il a eu de finalement de magnifier les autres grands du jazz. Il a constitué une passerelle entre des courants créatifs qui étaient intenses à cette époque des années 60 et passerelle entre les génies du bop et du hard bop, l'univers de Coltrane, les contrées sauvages et nouvelles du free jazz. Et tout ça, il a été partie prenante dans tous ces éléments. Il a participer à les faire se rencontrer et se connaître. Alors on va commencer, pour illustrer cette tendance, on va commencer par la fin, en fait, sur le plan chronologique, mais par le début, sur le plan des influences, parce que on va écouter un concert qu'il a enregistré en Hollande en juin 64, quelques jours avant sa mort, et il y a joué un thème inoubliable de Thelonious Monk qui s'appelle Épistrophie. Alors Monk était fou. Sa musique était complètement déjantée et finalement très peu de musiciens ont réussi à porter cette musique au-delà de ce que Monk en avait fait lui-même. Et Dolphy fait partie de ces quelques privilégiés. On écoute Épistrophie.
Thank you.
Eric Dolphy, génial dans cette interprétation d'épistrophie. Et Laurent, tu nous disais que Eric Dolphy était un passeur, un trait d'union entre les plus grands. Mais dans ces musiciens de jazz, il y a aussi des gens qui s'aiment plus ou moins. Alors, est-ce qu'il était trait d'union aussi avec ceux qui ne pouvaient pas se supporter?
Eh bien, la réponse est oui. Le plus bel exemple, c'est, je crois, les collaborations intenses que Dolphy a eues avec deux monstres sacrés qui, le moins qu'on puisse dire, qu'ils ne s'aimaient pas beaucoup. C'était d'une part Charlie Mingus, génial, déjanté, sulfureux, grandiloquent. Et puis d'autre part, John Coltrane, génial, bien sûr, ô combien, mais profond et mystique. Et ces deux-là, c'était pas le grand amour. Miles Davis avait toutefois réussi à les faire jouer ensemble, et il existe une trace avec deux morceaux enregistrés, on les écoutera à l'occasion dans une autre émission de Comal Radio. Mais Dolphy n'était pas là ce jour-là. Par contre, il a beaucoup travaillé avec les deux, séparément, Coltrane et Mingus. Et Dolphy a imprégné sa marque à chacune de ses collaborations en les poussant dans leur retranchement. Alors on va écouter tout d'abord Dolphy avec Mingus. Il crève l'écran et il fait exploser la musique de l'orchestre de Mingus en lui donnant une profondeur exceptionnelle. On va écouter une partie d'un enregistrement célèbre à Jean Lépin en 63. C'est un morceau qui s'appelle Wednesday Night Prayer Meeting. On va le prendre en cours de route de façon à ce qu'on puisse bien entendre le passage de la mécanique sulfureuse mais bien rodée de Mingus. Et puis ce que Dolphy arrive et fait exploser soudain quand il démarre.
Thank you.
Le terme dynamite pour Dolphy et pour ce Wednesday Night Prayer Meeting était bien choisi, je pense, Laurent. C'est absolument, absolument fabuleux de pouvoir écouter ça sur RCF. RCF qui devient le lundi la radio et lundi le samedi la radio du jazz. Et maintenant, après Mingus, après Coltrane, après Rick Dolphy et Coltrane, ils ont chacun un partenaire à leur démesure. Et le respect entre les deux était immense, un résultat exceptionnel.
Et oui, entre Eric Dolphy et John Coltrane, on peut dire que la mayonnaise a pris immédiatement, ça a été quelque chose de grandiose, c'est une forme d'osmose entre deux génies, ils s'admirent, ils s'écoutent mutuellement, mais comme on dit, chacun se sort les tripes et va au-delà de lui-même comme pour honorer son partenaire. Coltrane et Dolphy ont notamment joué ensemble en public au cours d'une tournée en Europe en 1961. Et à Copenhague, il y a eu un concert d'anthologie qui a par bonheur été enregistré. Donc parmi les morceaux qui ont été mémorisés, on va écouter une version de la célèbre ballade que Coltrane avait dédiée à sa première femme qui s'appelait Naïma. Thank you.
Lima, ça c'est une, tu nous as trouvé une interprétation qu'on entend rarement et c'est sublime. À titre personnel, j'aurais mis un peu moins de piano pour écouter un petit peu plus les souffleurs, mais ça c'est quand même grandiose. Et donc Dolphy fait des rencontres, on a vu ça de manière extraordinaire avec tous les plus grands, des explosions, tu as employé le terme de dynamite, mais il est mort jeune, ça veut dire qu'il ne s'arrêtait jamais, il ne chômait pas.
Ah oui, il était sur la brèche sans arrêt, il passait d'un concert à une session d'enregistrement, d'un bœuf à une tournée avec un rythme effréné. Le plus extraordinaire, donc, c'est qu'il s'est trouvé finalement à la croisée des chemins, peut-être au bon moment et aux bons endroits, mais il y est allé en tous les cas, à la croisée des chemins des grandes évolutions du jazz moderne dans plusieurs courants en même temps. À chaque fois, il a apporté une pierre essentielle par sa force, hein, on l'a entendu, et sa personnalité et l'originalité de sa musique. Il y a un exemple qui est peut-être le plus flagrant de cette participation aux grandes créations. C'est qu'il a participé à la session célèbre organisée par le saxophoniste Ornette Coleman en 60 avec un double quartet où figuraient Ornette Coleman et Eric Dolphy, mais aussi les trompettistes Don Cherry, Freddie Hubbard, les contrebassistes Scott LaFaro, Charlie Haddon et puis les batteurs Billy Higgins et Al Blackwell. Donc ce double quartet a enregistré une session considérée comme la naissance du free jazz, même évidemment si cette naissance a été en réalité étalée sur une période de temps plus longue. En tous les cas, il s'agit bien d'un moment important, essentiel de l'histoire du jazz. Et on va écouter le tout début de la suite qui s'appelle donc Free Jazz. Et pour l'anecdote, on pourra noter que c'est Dolphy qui prend le premier solo de cet enregistrement magique.
Free jazz, à la fois en titre et à la fois en style, avec Eric Dolphy. Alors Eric Dolphy que tu nous as montré comme passeur, puisqu'il a été passeur entre tous ces monstres des années 60 et 70. Donc c'est ainsi qu'il a pu donner sa pleine mesure ou sa pleine démesure.
Ben oui et non, effectivement. On a vu bien sûr le rôle qu'il a joué dans la rencontre de tous ces grands courants. Mais il a aussi laissé des enregistrements intéressants en tant que leader. Et puis, encore un troisième domaine, il a été un stimulant extraordinaire pour des musiciens importants, mais un peu moins connus que Coltrane, Mingus ou Ornette Coleman. Il y a un exemple saisissant qui est le trompettiste Booker Little. Alors c'est encore Booker Little, c'est encore une étoile filante du jazz. Lui, il est mort à 23 ans d'une crise d'urémie. Et en 61, ils jouaient ensemble dans un club qui s'appelait le Five Spot. Et ils ont laissé des enregistrements exceptionnels, encore une fois en public, avec le plaisir qu'on a à réécouter des enregistrements en live. Et on va écouter, pour terminer cette émission, un morceau qui s'appelle Booker's Waltz. Et on retrouve, là aussi c'est intéressant, en tant que charnière, quoi, entre l'esprit du hard bop dont est issu Booker Little, et puis la déconstruction et le remodelage par la clarinette basse d'Eric Dolphy. On écoute Booker's Waltz.
C'est sur ce dernier morceau, Booker's Waltz, que nous allons nous quitter après avoir écouté pendant une demi-heure, mais on l'écouterait des heures entières, Eric Dolphy, flûtiste, saxophoniste et surtout le plus grand clarinette basse de l'histoire du jazz. Au revoir Laurent, au revoir amis auditeurs de RCF.
Au revoir Alex et à bientôt, au revoir à tous.